Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, ici Armand Dubois. Notre invité cette semaine, c'est quelqu'un que nous avons bien connu déjà la semaine dernière, mais qui a encore tellement de souvenirs à nous raconter. Il s'agit de celui qui a occupé le portefeuille du travail, des richesses naturelles et également celui de la fonction publique. Dans deux cabinets distincts, celui de Jean-Jacques Bertrand de l'Union nationale à la fin des années 60 et celui du gouvernement libéral de Robert Bourassa au début des années 70, puisqu'il a été à l'Assemblée nationale de 1969 à 1976. Nous accueillons M. Jean Cournoyer.
Bonjour.
Ben merci encore une fois d'avoir accepté de nous revenir.
Ça fait plaisir.
Parce que vous avez tellement de choses à raconter. Lorsqu'on s'est quitté la semaine dernière, vous nous parliez de la commission Clich. Il y avait au sein de l'État, des dossiers tellement importants qui se jouaient à cette période. Quand on parle des années 70, on pense par exemple à l'assurance maladie. Hein, c'est sous M. Castonguay. Puis il y a eu un conflit là aussi avec la Fédération des médecins spécialistes. Tout le monde s'en souvient. Ça n'avait pas été facile, ça non plus.
Ça n'a pas facile de toute l'autre. Hein.
Et il y a eu aussi la fameuse loi 22.
Ça, c'était le changement de négociation dans l'enseignement, mais c'était un peu avant.
Oui, mais la reconnaissance du français...
Oh, tu parles de 22,
oui,
excuse-moi.
La reconnaissance du français langue officielle.
Ça, c'était une période difficile, surtout pour un député de l'Ouest de l'île.
Oui.
Parce que c'est drôle, hein, la loi 22 comme telle, c'est la loi qui faisait du français une langue officielle au Québec, puis qui a été mal reçue des deux côtés.
Exact.
Et par les Anglais et par les Français.
Et pourtant, ça survenait après, parce que vous avez été dans le cabinet de M. Bertrand, Jean-Jacques Bertrand, qui avait fait adapter le fameux...
La l'envers.
Oui, le Bill 63.
La liberté de choix de l'enseignement.
Parce qu'il y avait des troubles à Saint-Léonard, faut le rappeler.
Il y a eu ces troubles-là de Saint-Léonard, mais il y avait une effervescence au Québec. Il y avait d'un côté la demande instante de la part des francophones de protéger la langue française. Ça existait dans le temps de M. Bertrand. Et t'avais de l'autre côté des anglophones qui... Puis surtout les immigrants. C'était surtout les italophones qui, eux autres, en arrivant ici, arrivaient davantage en Amérique et se collaient davantage sur la langue du pouvoir. Et le pouvoir, à l'époque, c'est le pouvoir économique. Et le pouvoir économique, si on s'en souvient, n'était pas dans les mains des Québécois ni des Canadiens français. Il était dans les mains du capital anglo-saxon. Et en conséquence, la langue qui était la langue du succès, c'était la langue anglaise. Quand on était Québécois, on n'avait pas besoin, on n'était pas obligé d'apprendre l'anglais, quoique c'était très utile pour pouvoir avoir un emploi qui était considérablement intéressant. Mais quand tu étais un étranger qui arrive ici et que tu as le choix de te coller sur la langue de la majorité ou de te coller sur la langue du pouvoir, ben, naturellement, les Italos et les Portugais, tous ceux qui arrivaient ici devenant d'un pays d'une langue différente et de l'anglais et du français, avaient tendance à se coller sur l'anglais.
Mais tout ça s'était cristallisé à Saint-Léonard avec le mouvement d'intégration scolaire de M. Lemieux, vous vous souvenez?
Oui, l'architecte Lemieux. L'architecte Lemieux avait... Ben, ça faisait partie, ça, de la contestation ou de la manifestation en faveur d'eux. Et il y avait une manifestation contre eux. Et dans ces deux cas-là, M. Bertrand a choisi, lors d'une campagne électorale partielle dans Notre-Dame-de-Grâce, où il a été battu par Bill Tetley, il avait promis qu'il donnerait le libre choix de la langue d'enseignement aux parents de la province de Québec.
Étiez-vous à l'aise, vous, parce que vous étiez membre du cabinet?
Non, je n'étais pas à l'aise du tout. Moi, j'étais membre du cabinet, mais regarde bien comment j'étais membre du cabinet. Là. Moi, je venais d'être élu au mois d'octobre, le 27 octobre, élu comme député de Saint-Jacques, pas encore ministre, juste député. Et puis, j'arrive avec ce problème-là. Je m'étais préoccupé de ce genre de problème-là dans ma vie. J'ai toujours fait des relations de travail dès au sortir de l'université.
Vous étiez à l'Expo 67, d'ailleurs.
J'avais eu l'Expo 67 sur le dos. Là, j'étais dans les négociations dans l'enseignement, avec le Bill 25. C'est le Bill 25, pas le Bill 22 dont on parlait tantôt.
Oui.
Le Bill 25, c'était la loi qui ordonnait un nouveau régime de négociation.
Voilà.
Et M. Bertrand, qui était ministre de l'Éducation, avec Jacques Parizeau, qui était le conseiller financier du gouvernement, m'avait demandé de négocier ce bill-là, c'est-à-dire négocier la convention collective provinciale. Donc, ça m'a pris 2 ans. Au bout de 2 ans, M. Bertrand me demande d'être député, puis qu'il va me nommer ministre. Il me le dit pas, mais c'est à peu près ça que ça voulait dire. Eh bien, j'accepte d'y aller. Et là, j'entre à l'Assemblée nationale au mois d'octobre, à peu près 15 jours après mes élections, le 27 octobre, c'est au mois de novembre que je suis rentré là. Et le Bill 25, le Bill 22, pardon, c'est au mois de novembre. Je ne connaissais rien là-dedans. Même que Bellemare était en maudit après moi.
On parle de Maurice Bellemare.
M. Bellemare était le leader parlementaire de M. Bertrand.
Et un fin politicien.
Moi, on m'avait installé, parce que j'arrivais tard sur le tas, on m'avait installé en face du président de l'Assemblée nationale. Donc, j'étais loin de Bellemare, moi, puis j'étais loin de tout le monde. J'étais juste un député, j'étais pas dans le cabinet. Là quand je vois ça, moi, il y avait Pierre Laporte, qui était député de Chambly, et était encore pas mal, puis il était le leader du gouvernement, de l'opposition.
Parce que là,
nationale.
Vous êtes toujours au sein de l'Union nationale, il faut bien le dire.
Puis la grève était forte à Chambly, à la régionale de Chambly. En fait, là, M. Laporte propose qu'on fasse quelque chose. Puis, finalement, je me lève et je dis, il me semble que vous devriez laisser la place à la négociation. Bellemare ne comprenait rien. Que je venais de... Moi, je ne connaissais pas leur discipline. Je ne connaissais pas ça. Fait que, là, j'ai appris.
Ah, c'est un bon pain politique pour commencer une carrière.
Puis surtout, que je représentais à l'époque... En tout cas, mettons là, qu'on va oublier ça pour le moment parce que c'est des souvenirs qui sont d'un commencement de carrière, d'un commencement d'époque de ma vie. Et c'est embrouillé parce que tout arrive en même temps. T'es pogné avec le Bill 22, puis t'es pogné avec
25.
Les conflits. 25, pardon. Oui. T'es pogné avec le Bill 25. Puis t'es pogné avec la loi 63 que le gouvernement décide de passer.
Mais vous avez déjà, malgré la période qui fut relativement courte, parce que M. Bertrand a déclenché assez rapidement des élections après votre arrivée, six mois plus tard, mais vous avez suffisamment été remarqué, et probablement remarquable, pour que M. Bourassa, une fois élu, parce que M. Bourassa prendra le pouvoir, aille vous chercher, vous qui étiez de l'Union nationale.
D'abord, j'avais connu Robert à l'université, là. Faut pas imaginer qu'il m'a vu pour la première fois sur la colline parlementaire. J'étais président de l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal. Robert était président de la faculté de droit, là, à une époque ou à une autre de sa vie. Et, je pense que j'ai remplacé Robert comme président de la faculté de droit. Donc, de toute façon, on se connaissait. Et puis, il y avait Marianne Petit-Simard de Sorel, qui, elle, me connaissait mieux que son mari à l'époque. Parce que moi, je viens de Sorel. Alors, pour faire une histoire courte, cette connaissance de Robert était là. Puis après ça, ressouvenons-nous de l'époque tragique dans laquelle on est. C'est la crise d'octobre 1970. Le ministre du Travail du Québec vient d'être enlevé et assassiné. Et ça se vit là, d'une façon quotidienne. Là. Et tu n'as plus de ministre du Travail. Tu sais, les gens de l'opposition puis du gouvernement, ça se parle, ça. À un moment donné, il y a une sorte de... Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Ce qui passe à travers la tête de Robert à cette époque-là, c'est bien sûr qu'il y avait un décret de la construction qui s'en venait, que M. Laporte avait promis. Il y avait une politique de main-d'œuvre que M. Laporte avait promis. Mm-hmm. Puis que, bon, ton ministre disparaît, puis c'était un associé proche de Robert. C'était pas un député d'arrière-ban, c'était le leader parlementaire du gouvernement libéral. Et t'as Robert qui probablement se dit, en parlant avec M. Bertrand, que si on prenait Cournoyer comme ministre du Travail, il me semble que ça rassérénerait la chose. On aurait un gouvernement d'union nationale, finalement, parce que t'aurais un gars qui vient de chez vous, puis on le met dans le cabinet à l'opposé. Ça veut dire que de ce côté-là, au moins dans le domaine des relations de travail, on s'entend.
Oui.
Ça va être difficile pour M. Bertrand de s'ostiner de cournoyer l'autre bord, là.
Oui, puis on essaie. Il y a tellement de choses qui se sont passées à cette période-là. On va du coq à l'âne, mais ce n'est pas grave, parce que vous venez de parler de la crise d'octobre qui survient, donc en octobre 70. Vous êtes à ce moment-là membre du cabinet, mais vous êtes déjà ministre.
Non, j'ai été nommé ministre après l'assassinat de M. Laporte.
Après Laporte, alors parce que vous
pour
avez remplacé
Laporte.
Oui. Comme député, alors, comment vous vivez cette
pas
période?
Pas député, j'ai été battu aux élections du mois d'avril.
Ah, vous n'étiez pas présent
à ce
moment-là.
Non, pas,
c'est pour cela que M. Bourassa va vous chercher à l'extérieur.
J'étais à l'extérieur. J'étais retourné à l'arbitrage. J'étais à Havre-Saint-Pierre en train d'arbitrer.
Parfait. Alors, je reformule donc ma question à la lumière de ce que vous dites. Vous qui avez vécu comme citoyen, comme tous les autres Québécois, cette crise d'octobre, et que là, on vous demande d'aller remplacer celui qui vient de mourir au sein, finalement, de mains dites terroristes. Comment on accepte? L'acceptation ne doit pas être si simple parce que vous devez sentir la lourde responsabilité qui vous incombe.
Disons que je pense davantage aux problèmes de relations de travail qui subsistent dans la province au moment où Robert me parle. À cette époque-là, j'avais observé, comme tous les Québécois, tous les Canadiens ont observé là, ce qui se passait au Québec à cette époque-là. Tout le monde, tu sais, on est en vertu de la loi des mesures de guerre, là, c'est pas n'importe quoi. Ça. Quand la loi des mesures de guerre a été imposée ici, t'as un grand nombre de personnalités qui ont été mises en prison. Tu sais, tu mets 500 personnes en prison demain matin, là, puis des gens que tu peux pas douter. Quand tu vois des gens comme...
Pauline Julien, Lionel Villeneuve.
Même, moi, ce qui s'appelle le mari de Pauline,
Gérald
Godin, tout ce monde-là, derrière les barreaux. Dans quel pays qu'on est? La question qui m'est posée, c'est « Jean, j'ai besoin de toi ». Bon, quand c'est un premier ministre qui te dit ça, tu penses pas longtemps. Tu dis « Bon, c'est correct, t'as besoin. Moi, je suis là.
Le devoir d'État vous habite à ce moment-là.
Ça sera orgueilleux de dire ça. C'est pas un devoir d'État, c'est un peu une reconnaissance de... Quand un premier ministre prend la peine de te demander quelque chose, il t'en donne
pas,
il te le demande. Puis c'est le deuxième qu'il fait, là, parce que Bertrand l'avait fait avant. Parce que me demander d'être député quand j'ai une profession, j'ai une pratique de profession extraordinaire à mon âge, j'avais 36 ans. 36 ans, une pratique extraordinaire. Tu sais, mon histoire était là. The Builders Exchange, des fonds de pension d'industrie de la construction, la négociation du contrat de travail des enseignants de la province de Québec. Et puis, bon, mettez-en. Tout ça, c'était ma carrière professionnelle. À laquelle je mettais fin en devenant député. C'était une décision difficile à prendre. Ça n'avait pas le goût de faire ça. Sauf que quand le premier ministre te demande ça, c'est parce que lui a besoin de toi. Si lui a besoin de toi, c'est la province qui a besoin de toi. C'est sûr que ça peut m'enorgueillir. Ça peut me monter dans les rideaux avec ça, cette affaire-là, puis dire, bon, je suis au pouvoir maintenant. Écoute, quand tu t'en vas, ministre du Travail, t'es pas au pouvoir.
Et Dieu sait, on en a déjà parlé, vous avez pas eu un mandat de tout repos parce que à cette époque-là, il y avait plusieurs conflits de travail et le ministre du Travail était toujours sur la sellette. Comment étaient vos rapports avec Robert Bourassa? Parce que, bon, vous le savez, on reprochait à M. Bourassa son style un peu homme d'affaires, un peu effacé, au moment où, de l'autre côté, le Parti québécois avec René Lévesque et la jeunesse qui l'entourait commençait déjà à soulever les foules.
Oui, mais Robert n'était pas un souleveur de foule, mais c'était un gestionnaire extraordinaire. Il avait toujours l'air de pas savoir la réponse. Il avait toujours l'air d'être perdu, mais désespoir, il n'était pas perdu, cet homme-là.
Mais il s'est fait même ramasser par le premier ministre du Canada à l'époque, M. Trudeau, qui l'avait traité, vous vous souvenez,
de manger.
Voilà.
Mais Robert, ça y passait sur le dos d'un canard. Ça. Moi, ma relation avec Robert, puis ça a toujours été une relation d'amitié. On l'a créé, l'amitié, dès le point de départ. Quand il m'a nommé ministre, j'étais pas député, et sa confiance, il l'avait. Puis moi, j'avais confiance en lui aussi. On s'est joué des tours, c'est vrai. Il m'en a joué quelques-uns que j'ai pas toujours aimé. Mais on passe l'éponge là-dessus facilement parce que c'était pas des batailles politiques. Moi, j'ambitionnais pas de prendre sa place. Puis j'étais là pour le servir et à travers lui, à servir la province. Mais j'ambitionnais pas de prendre sa place.
C'était un homme exigeant à l'égard de ses ministres?
Il était d'abord exigeant envers lui-même. Robert était sur la job, comme on dirait, 24 heures sur 24. Il s'occupait des affaires de tout le monde. Et dans le fond... quand je dis qu'il est intervenu des fois dans mes affaires, j'ai pas aimé ça, mais s'il n'était pas intervenu, le climat social de la province n'aurait pas été ce qu'il a été finalement. Parce que l'argument qu'il avait utilisé dans le cas de M. Drapeau et de M. Hannegan, dont on parlait la semaine dernière, cet argument-là, ça a été tout simplement, il a dit à M. Drapeau, vous êtes responsable, vous êtes maire de la ville de Montréal, je suis responsable du climat social dans la province de Québec. Une fois que cette phrase-là a été dite, M. Drapeau a compris que ce qui s'en venait, c'était des gros chars. Et ça, Robert, d'où vous donnez l'impression d'absence de fermeté? Mais moi, je disais tout le temps, regarde là, allez, le grand fouette. c'est un roseau qui plie, mais qui ne rompt pas.
L'histoire a quand même été, j'allais dire, presque généreuse à son égard, parce que son retour en politique... après sa défaite amère de 1976, a quand même été un retour, j'allais dire, heureux, ouais. Puisque son image s'était comme littéralement transformée.
C'est-à-dire que l'image, il était le même homme, sauf que la perception que les gens en ont eue à la suite de son départ était meilleure que celle que les gens avaient pendant qu'il était là. À la suite de son départ, oubliez pas là, qu'on a eu le PQ qui est entré au pouvoir avec le dynamisme qu'on lui connaît, des lois extraordinaires qui ont été passées par le PQ sur la langue, par exemple, des lois, la 61, c'était une loi extrêmement importante, qui aurait probablement pas été possible si le Bill 22 avait pas été passé. Il faut essayer de se souvenir de ça. Là,
ça a été une étape importante.
L'étape, le Bill 22 était une transitoire et seul un Parti québécois pouvait passer la loi 101.
Mais il faut dire que lorsqu'ils ont perdu le pouvoir, les libéraux, ce gouvernement auquel vous étiez membre en 76, il y avait beaucoup d'apparences de conflits ou même de corruption. Souvenons-nous de ce dossier de la Société des alcools du Québec. M. Choquette était aussi sur la sellette. Il y avait toutes sortes d'histoires, vous le savez fort bien.
Il y avait toutes sortes d'histoires qui n'étaient probablement pas fondées, mais fondées sur quelques apparences. Je pense que, personnellement, j'ai probablement contribué davantage à la défaite de M. Bourassa que les petits scandales dont vous parlez.
Pourquoi dites-vous cela?
Ben, le rapport de la commission Tlich a associé le gouvernement davantage avec des éléments épouvantables de l'industrie de la construction. Puis le rapport de la commission Tlich, ça sortait, ça, d'un juge. C'était pas une rumeur qui courait, c'était... Des commissaires qui avaient été nommés, qui avaient été assermentés comme tels, qui avaient des pouvoirs, et puis qui avaient joué sur la corde sensible des Québécois en étant à la télévision pendant tout le temps. On peut pas oublier qu'une période de comme les comparutions devant la commission Tlich ont précédé la SECO. La SECO, ça a été l'autre affaire, ça. C'était la SECO, les viandes avariées, puis tout ce qui sortait à cette époque-là, c'est des œuvres du gouvernement libéral, ça. Et ces œuvres-là, ou bien donc on était des naïfs politiques, on les a mis en branle. Hey, vous prenez, on retourne à la commission Tlich, un bleu, vraiment bleu, qui s'appelle Brian Mulroney, un péquiste, vraiment péquiste, qui s'appelle Chevrette, puis un NDP qui est juge. Bon, mais lui, le juge, on peut comprendre son impartialité, son avenir est fini, il est assis sur le trône. Tandis que les deux autres sont tout jeunes. Puis leur avenir est là. Puis ils sont à la télévision à tous les soirs.
Puis un procureur aussi.
Puis un procureur qui s'appelle Bouchard. Les trois créatures de Tijan Cournoyer. Quant à y être, c'est bien de le dire. Tu sais, c'est trois personnages qui n'auraient pas eu l'exposure devant le public québécois qu'ils ont eu. Alors, moi, je dis, bon, on a été naïfs. Mais la première préoccupation que j'avais et que Robert avait, c'est que on ne devait pas nommer des libéraux sur cette commission-là. Si on en nommait un libéral, le rapport de la commission n'aurait pas l'effet qu'il a eu, parce qu'on le sait maintenant. Mais on le savait d'avance, nous autres, que si on mettait des anciens libéraux sur une commission comme celle-là, Ça bénirait peut-être le gouvernement, mais cette bénédiction-là, c'est une bénédiction du diable.
Ouais. Diriez-vous qu'après la commission Clich, les relations avec le monde syndical et le gouvernement ont été profondément modifiées?
Ben, gars, après la commission Clich, t'as eu les élections. Puis on a perdu les élections. Le peuple a dit, on veut plus de vous autres, on veut le Parti québécois. Le Parti québécois était associé très, très, très avec... c'est-à-dire, c'était un associé de la FTQ. Il ne faut quand même pas oublier que Fernand Daou, puis Louis Laberge à l'époque, c'était des... pas des péquistes, mais des souverainistes. Ils sont peut-être pas péquistes comme tels, là, ils n'étaient peut-être pas membres, mais c'était des gens qui soutenaient le Parti québécois de toutes ses forces.
Au début des années 80, quand surviendra la crise financière...
Là, c'est une autre affaire.
Se verront, eux aussi, privés de certains droits parce que le gouvernement reniera un peu sa signature.
C'est-à-dire que le gouvernement a un problème à régler et il faut saluer le courage du gouvernement à cette époque-là. De couper les salaires de 20 % des fonctionnaires puis de tout ce qui émane des budgets de la province, c'est du courage que ça prend, puis c'est être lucide que de le faire. Et de le faire malgré le soutien que le gouvernement avait obtenu de tout temps de la part des centrales syndicales. C'est une gifle aux centrales syndicales, mais c'est une gifle que le gouvernement ne pouvait pas ne pas donner.
On se retrouve en 2009, en 2010, en 2011 et les années successives, si vous voulez, et la situation constitutionnelle du Québec est toujours pas réglée. Vous avez été battu en 76, le Parti québécois a repris le pouvoir, à partir de ces années-là, va perdre deux référendums par la suite. Comment vous analysez tout ça?
Regardez, quand vous dites que la position constitutionnelle n'est pas réglée, moi, je vous dis,
Mais le Québec n'a toujours pas signé ça.
C'est des formalités que n'importe quel gouvernement du Québec trouverait humiliantes compte tenu de la façon dont la Constitution de 82 est imposée. Ça sera humiliant, que ce soit demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera humiliant pour le Québec d'aller signer une affaire de même. Elle n'est pas signée, elle est en vigueur, cette Constitution-là, et pour moi, elle est réglée. Alors, mais je n'irai pas me mettre à genoux devant le fédéral pour dire on va signer la Convention.
Lecture vous faites-vous la situation du Québec moderne?
Le Québec moderne, tel qu'il est actuellement, c'est un Québec qui se dépolitise beaucoup, parce qu'on n'a qu'à regarder les sondages pour voir un grand désintérêt pour la chose politique.
C'est triste, cela, non?
C'est triste. On pourrait commencer à chercher la responsabilité de cet état de choses. Peut-être est-ce que le fait que on n'ait plus le goût de vivre des périodes conflictuelles qu'on en a assez vécu pendant longtemps. Tu sais, deux référendums en peu de temps.
Mais la perte de confiance à l'égard des politiciens?
C'est que, moi, je pense que ce qui est le plus pénible qui est arrivé à la politique, c'était la diffusion des débats de l'Assemblée nationale et de la Chambre des communes.
Vous croyez?
Oui. C'est que si on avait décidé en le diffusant de montrer aux députés et aux ministres que le peuple vous regarde et il pose des questions, il se pose des questions sur votre façon de mener. Et la façon de mener, vous le faites devant eux à la télévision. Et vous n'en êtes pas conscient. C'est ça que je regrette le plus, c'est que les politiciens, les ministres ne sont pas conscients qu'ils sont en face du peuple. C'est pas juste une petite galerie en haut là, de l'Assemblée nationale, de la Chambre des communes, avec des gens qui sont intéressés à aller se faire saluer là, par le ministre qui les a invités. C'est le peuple qui vous regarde. Et quand une période de questions commence, puis que c'est du brouhaha, ça a l'air d'une salle d'école de deuxième année, puis que les petits, qu'il faut les replacer, puis faut aller prendre un après un, puis par les oreilles, puis assis-toi ici, mon petit gars. C'est comme ça que l'impression qu'on a de nos hommes politiques.
Mais c'était comme ça aussi à votre époque.
Sauf que c'était pas publié. On n'était pas à la télévision tous les jours. Et quand on a diffusé, nous autres, on n'était pas là. Et à l'époque, je peux te dire que oui, c'est vrai, mais on s'entendait tout seul. Mais dans la réalité de tous les jours, aujourd'hui, tout le monde peut les voir comment ils agissent. Puis à la Chambre des communes, c'est encore pire. Mais c'est tout le monde politique qui se trouve à écoper de cette situation ridicule.
Mais on dit que ce genre de débat a droit de cité parce que s'il n'y avait pas ce genre de dispute théâtrale, ça se jouerait à coups de poing dans les rues. C'est le prix à payer pour avoir une saine démocratie, non?
Oh, c'est un prix à payer pour que les gens se désintéressent de la politique. À regarder un spectacle de fou devant toi, tu regardes pas le spectacle deux fois. Et tu dis, ben, ce sont comme ça, que ça me donne, que ça me donne de regarder ça. C'est pas tout le monde qui veut se battre dans les rues, là.
Et pourtant, Dieu sait que faire de la politique, c'est un engagement de tous les jours.
C'est un engagement de tous les jours, mais quand tu vois, par exemple, dans une chambre, la Chambre des communes, il y a un gars qui s'est foiré à parler, puis il y a deux personnes dans la salle. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui-là? Il se parle là tout seul. Ben, là, il s'adresse au peuple. Mais c'est correct qu'il s'adresse au peuple. Mais pourquoi le brouhaha?
Hein? Alors, c'est pas comme ça qu'on va faire...
On va faire ça à radio, là.
C'est pas de cette manière qu'on va faire l'éducation auprès de la génération montante,
non,
au plan politique.
Tu les décourages de regarder ça. Quand ils vont à l'école, les jeunes, aujourd'hui, ils sont peut-être pas disciplinés autant qu'on l'était, parce que nous autres, c'était la règle, mais ils sont disciplinés quand ils sont dans les classes. Les professeurs ont encore une autorité sur eux autres. Mais on voit pas le président de l'Assemblée nationale n'avoir sur des personnes qui sont élues à cause du fait qu'ils sont plus intelligents que les autres.
Alors, M. Cournoyer, Jean de votre prénom, on va faire une pause, on va faire preuve de discipline et on va poursuivre cet entretien extraordinaire sur vos mémoires tout de suite après l'identification suivante.